c'est l'heure d'un petit débat sur l'antenne éphémère du festival avec ce sujet qu'on vous propose, musique équitable, point d'interrogation. Alors, ce terme équitable est employé à de multiples sauces, notamment dans le domaine musical aujourd'hui. Alors, pour en parler autour de la table avec nous, et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, Laurent de RadioTchango.com Barcelone, du site Radio Tchango, Farid, l'agitateur et animateur du collectif Désert Rebelle. Vous me direz si les définitions vous conviennent pas. Jean-Yves, maestro du festival Esperanza. Et François Mauger, du label Seyit Loud. Alors en marseillais, comme il aime à le prononcer, c'est Seyit Loud. Et puis, pour co-animer cette émission, Étienne, d'abord, je voudrais qu'on fasse un premier tour de table pour que vous donniez chacun votre tour une définition de ce qu'on pourrait appeler la musique équitable. Alors Jean-Yves, toi t'es là dans le cadre bien sûr de la programmation du Festival Esperanza, on sait qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont des découvertes, beaucoup d'artistes aussi qui se réclament de l'équitable. Il y a aussi un projet au Burkina Faso avec les Ryan The Wing que vous soutenez, qui est aussi dans cette sauce d'équitable. Qu'est-ce que c'est pour toi les musiques équitables ?
Mais moi, c'est quelque chose que je découvre aussi avec, notamment avec le projet qu'on a ici avec Désert Rebelle. C'est une nouveauté parce que c'est quelque chose qui n'existe pas à ma connaissance ou très peu dans le monde de la musique. En général, quand tu traites avec un groupe, tu négocies un cachet et tu sais pas trop comment il est utilisé dans les salaires, dans la production, dans l'agent ou dans des tas de trucs. Donc voilà, c'est vrai que c'est toujours une grosse connu, on me demande souvent mais comment ça se négocie un cachet, etc. Ben, c'est à l'offre et à la demande et à la négociation et la grosse difficulté c'est que tu sais pas combien prend l'agent, combien prend le manager, combien prend la maison de disques, combien prend le groupe et en final combien ont les artistes.
C'est ça tout de suite une question qui me brûle les lèvres concernant un programmateur de festival. Est-ce que ça t'intéresse toi dans le cadre de ton rôle ici à Esperanza de savoir combien touche l'artiste?
Évidemment, c'est clair que ça me ferait mal de savoir que tu débourses une somme importante pour un artiste et qu'au final, je vais dire que tu débourses 10 000 euros pour un artiste et qu'au final, il en a 2 000 ou 2 500 et que le reste va à des intermédiaires que moi, j'ai pas vu et qui ne me servent à rien ou qui servent pas à grand chose à l'artiste. Enfin, c'est une grosse difficulté. C'est un sujet, je le dis comment moi, je le vis sur le festival. Il y a des artistes que je trouve admirables où tu sens tout de suite qu'au travers du cachet qu'il te propose, c'est la rémunération de l'artiste et qu'il n'y a pas grand chose autour, parce que souvent c'est des artistes. Je pense à un gars qui est venu ici, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Thierry Titi Robert. Et bien Thierry Titi Robert, alors qu'il a une réputation quand même internationale, chaque fois qu'on discute le cachet, je tombe des nues tellement c'est un cachet abordable, quoi. Mais tu sais bien que c'est quasi ce qu'il touche lui-même, quoi.
Et dans l'autre sens, il y a des artistes que tu refuses parce que ça coûte trop cher ou justement il y a problème.
Évidemment. Oh oui, c'est clair, il y en a à qui je ne demande même pas, parce que je connais la réponse
d'avance.
Mais
dès que tu pourrais musicalement programmer, ou que tu aimerais musicalement programmer,
par
exemple.
Oui, c'est clair, bien sûr.
Là, on rentre dans le
vif. Et il y en a notamment des groupes espagnols qui coûtent très cher.
On va peut-être pas rester sur ce sujet des cachets d'artistes, mais donc, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Jean-Yves, une musique équitable?
Mais une musique équitable, ce serait une musique où tu sais que la rémunération, le paiement que tu fais, il donne droit à une rémunération juste pour tous les acteurs de
donc
la
on va
musique.
Dire un certain équilibre économique entre les différents acteurs de management, de production.
Mais oui, que la rémunération soit juste et qu'on soit dans un équilibre qui soit...
Il y a Manu qui vient de rentrer des Air Rebelles et Trio dans le studio, qui est avec nous pour parler.
Salut.
Salut Manu.
Installez-vous.
Et Junior Koenig est derrière. On va peut-être demander à Farid, parce qu'on parle de musique équitable aussi, parce que Désert Rebelle est là.
Et se revendique de musique équitable, je pense.
Au-delà de culture en résistance, parce que comme tu disais, le terme équitable a été utilisé et peut être utilisé à toutes les sauces, un peu comme le terme bio. Aujourd'hui, il y a une grande marque qui détient le terme bio, et je suis sûr dans la tête du consommateur...
Donc elle y renonce.
Elle y renonce maintenant.
Si tu penses au yaourt, elle est en train d'y renoncer. D'accord. Et de changer de marque parce qu'il y a un label bio
très bien,
qui l'a débouté. Il y a un label national en France.
C'est très bien.
Qui
c'est
lui interdit d'utiliser cette marque. C'est juste un aparté.
Longtemps, ouais.
On peut même préciser que la plupart des gens qui font du bio et qui font du commerce équitable ne le savent même pas, enfin ne le revendiquent même pas.
Voilà.
Par exemple.
Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que bio, dire qu'on fait du bio et qu'on fait du commerce équitable, c'est aussi d'une certaine manière, pour beaucoup de gens, un argument de vente. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de gens qui ne le revendiquent pas, qui le font naturellement depuis toujours et qui ne sont jamais rentrés dans des normes, dans une façon de penser qui est seulement part de marché et profit. Des gens qui pensent vraiment à qualité de produit et à respect du consommateur, tout simplement.
Farid, est-ce que pour des Airs Rebelles, justement, c'est un argument de vente ou si ça ne l'est pas, pourquoi?
Bah, si c'est pour la bonne cause, ouais, c'est un argument de vente. Hein. Tu sais, les Airs Rebelles font du marketing aussi.
J'aurais envie de dire que dans la plupart des projets humanitaires, on prétend que personne n'est payé. Et en général, il y a toujours des gens qui croquent au passage des bénéfices. Là, l'idée, elle est de dire on fait du commerce équitable, c'est-à-dire que tout le monde est payé pareil. Et au maximum, que tout le monde, que ce soit les éditeurs, les distributeurs, que tout le monde joue ce jeu-là. Ensuite, il y a des bénéfices qui se dégagent et qui serviront, en ce qui concerne des Airs Rebelles, à développer des écoles de musique qui sont déjà en construction au Niger. Voilà. Donc il y a deux fonctions.
Je ferai une petite parenthèse comme ça au début du débat. Et pour nous, la meilleure façon de ne pas tomber dans le piège de celui qui utilise ou qui n'utilise pas l'arme équitable, c'est la transparence. C'est ça que je voudrais qu'on parle.
C'est-à-dire la transparence. Je voudrais juste qu'on termine ce tour de table sur les définitions de termes musique équitable. Après, on va parler de transparence autour de la table. Moi, ça ne me pose pas de problème. Laurent de Radio Tchango, Barcelone, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, musique équitable?
Je trouve que ce n'est pas évident de parler d'équité dans la musique ou de musique équitable. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup d'agents. On a parlé un peu des managers, on a parlé des festivaliers. Au niveau de la production aussi, c'est assez compliqué. Puis en plus, il y a au niveau technique pas mal d'évolutions, de changements qui font que finalement, le coût de production d'un disque est devenu de plus en plus dérisoire. Mais en même temps, il faut quand même Internet, ou il faut pour faire la distribution alternative, ou il faut des ordinateurs, donc c'est quand même pas à la portée de tout le monde. Et moi, je préfère parler un peu de plus qu'équité, parce que c'est dur à juger l'équité, en général. Je préfère parler de musique alternative. Parce qu'aujourd'hui, on a une société qui n'est pas équitable. Et je pense que tout autour de la table, on est en train de faire différemment les choses, quoi, par rapport à ce qui se fait dans la société.
Alors ça me semblait pas mal d'inviter Radio Tchango autour de la table, parce que vous avez une charte à passer un temps avec des productions d'albums d'abord sur Radio Tchango, et puis aussi pas mal de management, et il y avait à cette époque là une charte qui citait ce terme là d'équitable, oui, entre le producteur, l'artiste, le tourneur, le booker, etc.
Ouais, l'idée c'était d'arriver en fait en vendant le disque par internet à expliquer aux consommateurs où étaient les coûts. On s'est rendu compte d'ailleurs que la majorité des coûts dans la vente par internet, c'est surtout dans les banques et l'intermédiation financière du produit, et dans l'envoi aussi par courrier.
Donc on tourne toujours en rond, en fait.
On tourne en rond parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la production a changé, et les moyens de produire des disques se sont démocratisés, entre guillemets, enfin, au moins en Occident. Par contre, je pense au niveau de la distribution, et c'est là où il y a un gros problème, on est dans une société de consommation de masse. Je pense qu'aussi, même au niveau par exemple des magasins disques, le rôle du disquaire d'avant, de conseiller, n'existe plus non plus. Les gens vont dans les supermarchés pour choisir des disques, donc on est dans une culture massifiée. Et faire des choses de manière alternative en général, c'est de toute façon très dur.
On va donner la parole à François Maugier, qui a produit la compilation Drop the Debt, qui est à mes côtés. François, si je résume, toi, la musique équitable, tu nous disais hier, moi j'y crois pas.
C'est pas que j'y crois pas, c'est que je l'attends et je l'espère, mais il faut être très précis avec les mots qu'on emploie ont un sens, et il faut les défendre, notamment le mot bio, justement cette histoire de yaourt, le mot bio a été défendu contre cette marque de yaourt. N'importe qui ne peut pas dire qu'il fait du bio. Il faut qu'il puisse prouver qu'il fait du bio. Et c'est très compliqué de prouver qu'on fait du bio. J'avais un débat il y a pas très longtemps avec des agriculteurs qui m'expliquaient qu'il fallait que le champ soit en jachère pendant 5 ans avant de pouvoir commencer à produire du bio. Donc il y a sur le terme bio une étiquette, une règle très précise, et il faut espérer qu'on arrive sur le terme équitable à avoir la même étiquette. Il faut savoir que avant que nous on parle de musique équitable, il y a tout le commerce équitable qui est un mouvement qui s'est mis en place depuis des décennies. C'est un mouvement très long qui a suscité une vraie réflexion et qui a essayé d'établir des chartes, des pourcentages, etc. Et il ne faut pas s'aborder tout ce mouvement de réflexion, nous en arrivant en disant, voilà, la musique équitable, c'est comme ça, paf. Il faut s'inspirer de ce mouvement de réflexion et s'en enrichir. Donc je dirais que la musique équitable, aujourd'hui, je la vois nulle part, mais qu'en même temps, la musique équitable, c'est une urgence. Parce qu'on est dans une période, on le disait, de bouleversement complet de la musique, et que les bouleversements complets de la musique, il y en a eu plusieurs. Hein. Je veux dire, le modèle qu'on avait avec le CD datait à peine d'une quinzaine d'années. Auparavant, c'était le vinyle. Avant le vinyle, c'était autre chose, c'était des chants en direct. Donc, le modèle n'était pas définitif ni appelé à se reproduire très longuement. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces derniers temps, les métamorphoses de la musique ont toujours été décidées et dirigées par des opérateurs des technologies et pas par les musiciens. Et donc on a subi, en quelque sorte, on a suivi, on nous propose le CD, formidable, et bon, on grave sur des CD. Avant, c'était le vinyle, formidable, on grave sur des vinyles. On suit, parce que c'est pas, enfin, nous, les musiciens ou les artistes, etc., ou les producteurs même, on est un petit peu victime de ces bouleversements technologiques. Là, on passe à une nouvelle ère qu'est la numérisation, le MP3, etc. On est toujours un petit peu en retard. Et si je dis qu'il y a une urgence sur la musique équitable, c'est qu'il faudrait que d'un seul coup, on devienne acteur. Et qu'on dise, qu'on trouve des façons de définir ce qui est vraiment dans notre intérêt, dans l'intérêt des musiciens, dans l'intérêt des gens qui vivent de la musique, parce que les musiciens ont besoin d'être entourés et encadrés. Il y a tout un travail à faire autour. Et donc, je dis pas que ça n'existe pas, je dis qu'il faudrait que ça existe, mais il faut qu'on travaille en ce moment sur la définition précise et qu'on ne puisse pas utiliser le terme n'importe comment et le galvauder, quoi.
Farid ou Manu?
Ouais, juste dans ton discours, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Tu oublies juste peut-être de parler de la conscientisation du consommateur. Je pense que c'est le seul truc que tu oublies de préciser, et c'est vachement important de dire que le consommateur est aussi acteur de tout ça.
C'est une des bases du commerce équitable, par exemple.
Oui, et ce que je veux dire, c'est que ne pas parler du public, c'est dangereux. Je me dis, ça serait peut-être, enfin, pas ton intention, mais en tout cas, ça peut laisser entendre qu'on part du principe que le consommateur est idiot et qu'il fait pas gaffe à tout ça. Et je pense qu'il faut quand même, dans ton discours, intégrer juste cette notion de le consommateur, il est acteur de ça et il est responsable aussi de tout ça.
François, c'est même lui voilà. Qui va pouvoir faire les changements.
François, le consommateur, il est idiot?
Non, le consommateur n'est pas idiot du tout.
Dis pas que c'est ça que tu dis, hein.
Non, le consommateur n'est pas idiot. Et dans le commerce équitable, on se base sur l'idée que, et c'est justement, moi, je disais qu'il faut se nourrir de leur réflexion sur l'idée que le consommateur n'est pas idiot et que c'est lui qui va faire les changements au final. Le commerce équitable, c'est le traitement, la rémunération équitable des producteurs, c'est la transparence complète, mais c'est au-delà de ça, parce que ça, c'est toujours ce sur quoi on se focalise, c'est aussi une éducation du consommateur, et ça, c'est extrêmement important, c'est même le plus important, je pense, dans le commerce équitable. C'est aussi, au-delà de ça, une certaine écologie et une certaine prise en compte de tout ce qui entoure le produit, parce qu'on ne considère pas juste ce qui est dans le paquet de cacahuètes, mais on considère l'emballage, toute la distribution, c'est l'intégralité, et donc je pense qu'il faut vraiment se nourrir de tout ce qui a été pensé par ceux qui font le commerce équitable.
Farid, donc, qui voulait intervenir.
Nous, juste au niveau dans lequel on est avec toute l'équipe là, du collectif des Aires Rebelles, à la base, de façon,
mais qu'on soit clair, des Aires Rebelles utilisent cette étiquette d'équitable.
On nous l'a mise à un moment donné, et nous, d'où le nom de la collection qui s'appelle Culture au singulier et Résistance au pluriel, l'axe il est là. Finalement, avec le recul, la partie, on va dire, équité, transparence, etc., on va essayer de pas trop en parler ou d'en parler pour mettre de la lumière sur les gens avec qui on travaille, qui nous aident et qui vont nous aider dans les semaines à venir à rédiger cette charte, c'est-à-dire en France, la plateforme du commerce équitable, et de l'autre côté, un autre mouvement, un autre courant que certains connaissent, qui s'appelle Minga. Donc nous, dès le départ, on a contacté les différents mouvements qui élaboraient depuis des années, qui réfléchissaient autour de la charte, pour leur dire que voilà, nous, à notre niveau, au niveau du monde de la culture, et je précise, je dis bien monde de la culture, parce que cette idée de projet, elle est autour de la culture. Pour moi, la musique fait partie d'un tout. Un des premiers constats avant de lancer ce projet, c'est de se dire stop aux photographes qui vont dépouiller des super belles photos de gamines en Afrique, et un mois après, t'apprends que la gamine est morte et que le mec l'a même pas filé 5 ou 10 euros. Ça, c'est des constats qui nous ont renforcés dans l'énergie de faire. Donc, pour nous, ça concerne la musique, ça concerne l'image. Et Bergeron, on en a parlé hier, François Bergeron, pourquoi il fait ce film, et pourquoi il le fait de cette façon, alors qu'il aurait pu le faire, on aurait pu faire ce film de Désert Rebelle, sûrement qu'une énorme chaîne, avec un gros sponsor, etc. C'est pas le choix qui a été fait. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, nous, c'est de rassembler des gens, de lancer une petite patate chaude, comme ça, et que les gens autour se rassemblent. Je peux déjà témoigner que ça le fait. C'est le 10e festival ou 15e festival qu'on fait dans cet état d'esprit à Côtement Alternative. Ouais,
mais c'est le meilleur.
Et c'est le meilleur en Belgique.
Et on sait pourquoi j'arrive à rester maintenant.
Et tu te rends compte que dès qu'on parle de culture, ça génère des trucs. Hier, on était en interview ici, on a rencontré votre informaticien qui est branché Internet, etc.
Alban, merci.
Alban pourrait faire partie de ce truc alors qu'il est ni vendeur de disques, ni cadreur.
Alors tout à l'heure, tu parlais de transparence, Farid. J'aimerais qu'on revienne sur qu'est-ce que tu voulais entendre par là.
On voulait entendre que la première idée qui était venue aussi à l'esprit au moment où on s'est dit, tiens, on est un peu dépassé par l'histoire à la base. On réunit des potes, on dit on va au Niger avec Bergeron faire un film autour d'un artiste emblématique de la rébellion avec toute l'histoire qu'on connaît musicale d'Abdallah. Et voilà, on fait un film et on met de la lumière sur ce gars-là. Cette lumière va lui servir à venir en France puisqu'il est rocker oublié dans le désert. Et grâce au nom et l'aura des artistes qu'on emmène en plus de leur engagement, on sait que cet artiste aura un minimum de visibilité médiatique. Donc on se dit Abdallah, ça va aussi l'aider à faire vivre et à faire vivre ses écoles. La base du projet, elle est là. C'est pas un projet scénique, Désert Rebelle. C'est pas un projet d'album à la base. On a été dépassé. Au retour, on est revenu. Gizmo nous invite dans son studio à faire vraiment à enregistrer l'album. Et là, on se retrouve à faire un album, à être contacté par des tourneurs pour faire une tournée. On se rend vite compte que dès le départ, les tourneurs, par exemple, je parle du monde de la culture, les tourneurs qui nous contactent avaient une approche complètement showbizée, avec un discours aussi militant. Qu'on a vite pas pu signer avec un tourneur. On a trouvé aucun tourneur français, même chez les gros indépendants qui étaient prêts à jouer tout le jeu qu'on voulait mettre en place. Je vais répondre à la transparence, mais je donne l'environnement. Je donne l'environnement. Finalement, on a fait le choix d'un tout petit tourneur qui était organisateur du festival d'Effenec en Bretagne. Voilà. Et ce qui a fait qu'on a sûrement eu beaucoup moins de dates que prévu sur cette tournée. Mais pour le peu de dates qu'on a fait, c'était vachement bien parce que au moins on s'est retrouvé sur des lieux, on va dire, résistants. Et qu'on s'est dit, putain, merde, même les tourneurs ne vont pas jouer le jeu de la transparence. Parce que ce qu'on voulait faire sur la transparence, je vais répondre à la transparence, c'était mettre au camembert, faire un camembert de répartition au dos de chaque support que l'on a. C'est-à-dire au dos d'un CD. Tu mets le camembert, combien touche le producteur, combien touche le magasin chez qui tu l'as acheté, combien touche l'artiste, combien touche. Toi, un vrai camembert de. C'est là où le consommateur prend et devient responsable. On nous a dit que au niveau de la loi, de mettre ce camembert plus de mettre le prix conseillé sur l'album, c'est interdit. Ouais. Donc, on s'est dit, tant mieux pour le renforcement. Travaillons avec les petites boutiques artisans du monde, par exemple, en ce qui concerne la France. Et là, merde au système, on va mettre un sticker avec le camembert et puis qu'on nous attaque, toi, d'une certaine façon. Donc, c'est pour moi, pour pas tomber dans le piège. Et on a comme ça nous donne une pression, et tant mieux, une bonne pression, parce qu'il y a des bonnes vibes dans cette pression. Donc ça nous donne une pression de se dire, il faut qu'on essaie d'être un maximum irréprochable, les gars, que ce soit sur la vente du disque, les concerts que l'on organise ou qu'on va, où on est invité, sur le publishing, les éditions, parce que ça personne n'en parle des éditions musicaux, c'est ce qui rapporte énormément de thunes. À ce jour où on est, tout est bloqué sur Désert Rebelle dans le projet de créer une coopérative. Après, bon, on en reparlera dans quelques mois si on a réussi à monter ce projet. Mais non, voilà, pour te dire que la transparence, quand tu es transparent, toi, j'oublie le terme équitable, après je m'en fous. Toi.
Si on veut être transparent, par exemple, on peut prendre le cas concret ici du festival. Quel cachet et qu'est-ce que vous en faites derrière?
D'accord. 10 500 euros de cachet, près 16 personnes de salariés.
S'il y a un problème.
J'attends.
10 500 euros de cachet qui sont répartis donc sur un camembert de 100%. Il y a 48% qui sont la masse salariale à terme égal auprès des artistes qui soient très connus ou des techniciens ou de l'assistant ou du merchandising. Il y a 17% qui sont affectés pour les billets de train et la location du camion. Il y a 8% qui sont affectés sur une caisse pour Abdallah, perso, ça c'est pour eux, pour pouvoir être en autonomie alimentaire et l'hébergement, par exemple, en dehors des dates. On leur donne ça aussi aux musiciens. Il y a 6% qui partent sur la caisse pour les écoles. J'ai oublié le pourcentage. Il y a 3%, ce qui est très peu, pour des flyers, mais là on a pu parce que... On pouvait pas faire péter le budget promo. Je vais presque arriver à 100%. Pardon, il y a 10% pour le tourneur, ce qui est très important. Habituellement, c'est à peu près 20% le tourneur qui prend. Thomas, il prend 10%.
En Belgique, c'est 15%.
Ouais, en France, c'est entre 15 et 20%. Thomas prend 20% et il y a 20% qui rentre dans la caisse de production du projet pour commencer à amortir des frais, puisqu'il y a eu comme pas mal d'investissements. Donc voilà, par exemple, les 10%, ça peut paraître bizarre, mais par exemple, les 10% de ce concert-là, donc les 1000 euros vont servir à payer quelques jours un technicien qui a monté le film de François ou le gars qui a fait le mastering de l'album.
François Mauger,
tu en penses quoi, par exemple? Toi, tu es convaincu par ça?
Ah bah, la répartition, oui, c'est une répartition assez étonnante. Il faut savoir, effectivement, Jean-Yves pourrait confirmer qu'effectivement, en général, le tourneur prend 20%, et parfois les tourneurs français montent jusqu'à 25 ou 30%. Et qu'ensuite, effectivement, sur un cachet de 10 000 euros, il n'est pas rare que les artistes ne touchent que 3 500, 4 000 euros.
Oui, non, ce qui est étonnant dans ce cas-ci, mais on n'a pas été assez loin encore, parce que bon, ils sont aussi en construction de projet au début, donc la répartition, on l'a pas eu, comme tu l'as dit maintenant, alors que c'était prévu qu'on en discute et tout, mais je comprends tout à fait, hein. Mais c'est clair que quand tu...
C'est-à-dire que toi, par exemple, t'aurais bien aimé avoir la répartition peut-être avant, c'est ça?
Mais je connais le projet, on en a discuté, on s'est rencontrés à Rennes et tout, et puis bon, c'est vrai, comme l'a dit Farid, je crois que j'ai vu passer, depuis qu'on discute ensemble, deux ou trois tourneurs différents, non? Vous avez dû négocier, donc moi j'ai eu les contacts chaque fois, je crois, avec chaque fois des dialogues différents, des manières de concevoir différentes. T'en as qui assistaient sur le business, d'autres sur la promo, etc. Et quand Farid m'avait expliqué tout son projet, je me disais, mais avec ce tourneur là ça colle pas, donc il y a des trucs que je comprenais pas. Et non, c'est vrai, franchement, je vous parle du bout de la chaîne, quoi, alors que moi je me réjouissais justement de savoir, tiens, exactement, je paye une somme qui, pour un festival comme le nôtre, est importante, faut le savoir quand même, je paye une somme, et c'est intéressant de savoir évidemment à quoi est utilisée cette somme. C'est génial, ça.
Question peut-être à Manu ou Junior Cogny. Est-ce que dans ce projet des Airs Rebelles, l'argent pose des problèmes pour vous entre musiciens aujourd'hui? Et est-ce qu'il a pu le poser des fois par le passé dans d'autres projets musicaux? Dans les répartitions, dans je sais pas.
En ce qui me concerne, non. On peut parler de Trio, par exemple.
Moi, j'allais poser la question pour Trio, parce que vous êtes chez Sony Music, mm-hmm. qui est pas un label équitable, de loin même. Ouais. Comment ça se passe, cette transition entre Sony Music et le projet des Airs Rebelles?
Producteur de musique, c'est-à-dire que malgré qu'on ait signé avec Sony Music, on est resté producteur et éditeur. Donc, mm-hmm. on a quand même une bonne partie des choses qu'on gère vraiment nous-mêmes. Ensuite, c'est toujours pareil, le jeu avec Maison 10, c'est de signer le meilleur contrat pour se faire le moins entuber. Voilà, eux, ils ont dans n'importe quelle maison de disque, t'as un bureau qui s'appelle le business affaires. C'est des mecs qui sont spécialistes. Ils sont chargés de, pas chargés de produits. Business affaires, c'est des mecs qui sont chargés de rédiger un contrat et de tirer le plus possible la couverture pour la maison de disque. Donc, de t'entuber à mort. Et donc, ils disent, ouais, c'est des épiciers, les mecs, quoi. Voilà. C'est des mecs qui sont spécialistes de ça et ils t'entubent le plus possible. Donc, c'est genre, tu dois refaire faire le contrat 4, 5, des fois même 10 fois avant que t'obtiennes un truc correct. Malgré ça, il y a toujours des vis de forme. Pour revenir à Trio, voilà un exemple. Dans le groupe, il y a deux auteurs principaux. Il y a Mali et Guise. Et Guise, je crois, est celui qui a composé le plus de morceaux. Quand on a fait le premier album, il devait avoir les trois quarts de l'album qui étaient écrits et composés par lui.
Et ce qui veut dire les trois quarts d'argent pour lui dans ce cas-là,
à peu près. Je parle au niveau droit d'auteur, au niveau SDRM, SDP, tout ça. Et les premiers chèques sont arrivés. Donc, nous, on gagnait pas du tout notre vie. On avait vraiment... On bouffait des pâtes tous les jours et on luttait pour acheter un disque. Et je parle de ça il y a à peine 10 ans. Et Guise, quand il reçoit ses premiers chèques, il nous fait « Les gars, là, je vais pas bien. Là, j'ai un problème de conscience, je gagne 7 fois plus que vous. Et c'est pas possible. Donc, je vais vous reverser des droits sur les chansons. Parce que de toute façon, les chansons, je les aurais jamais fait comme ça sans vous. » Et voilà. Et moi, le premier chèque qu'il m'a fait, c'était un chèque de 100 000 francs. Comme ça, il m'a dit « Manu, tiens, c'est ton fric. » Et il me l'a donné. Voilà. Pour résumer l'état d'esprit qui véhicule notre lieu. À ce moment-là, on a fait un choix de se faire des redistributions de droits et de mettre en commun nos droits d'auteur dans une société qui s'appelle Salut au Prod. Voilà. Pour moi, ça s'appelle de la musique équitable, en tout cas dans la base et dans la façon de fonctionner. Et je suis fier, très fier de m'inscrire là-dedans. Je suis totalement d'accord avec ça.
Et vous avez l'impression que Des Airs Rebelles fonctionne un petit peu sur le même mode de fonctionnement? C'est différent?
Alors, pour les droits d'auteur, je ne sais pas encore comment ça se passe au niveau de Des Airs Rebelles. J'imagine qu'on va s'inscrire dans le même.
Ce qui est intéressant, par exemple, sur la partie de l'album, quand tu enregistres un album, souvent, je parle pas des auteurs-compositeurs, mais tu as des musiciens qui viennent, ou des arrangeurs, des DJ, ou des mecs qui remixent, et qui sont pas vraiment mis, on va dire, en valeur par rapport au travail qu'ils apportent. Donc, on leur file un cachet musicien, alors que le mec. Donc, nous, on a essayé de mettre en place un système qui est, par exemple, que Abdallah Mbadougou, l'artiste principal, est toujours auteur et compositeur de ses morceaux. Les arrangements, on a fait une répartition avec les différents guitaristes qui ont participé au projet, hein, quel que soit, on va dire, leur expérience, tout. Les différents musiciens, on essaie de placer tout le monde. La seule question qui est en suspens, mais c'est celle qui génère de toute façon beaucoup d'argent, c'est les publishing, les éditions. Donc on s'est dit pour l'instant, c'est pas sur la table, sort ton truc. Et actuellement, on est en contact avec la fédération des SCOP en France, la fédération des coopératives en France. On va leur demander conseil et on va aller voir à la rentrée pour voir comment on peut créer une coopérative autour de ce projet, ce qui ferait que la moitié du publishing irait là-dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est que la coopérative, à la limite, pourrait pas concerner que des rebelles. Toi, il y a des gens qui sont en train de rentrer un peu dans le collectif. Mousse et Hakim, là, démotivés.
Ils ont envie de faire un projet aussi.
Voilà, donc ça y est, on est parti, on va faire des trucs ensemble à la rentrée. Donc toi, c'est un truc à géo-variable. Mais même cette question de coopérative, publishing, vente sur Internet en direct, etc., ils sont, de toute façon, tous les potes qu'on a autour, ils sont tous dans la même réflexion. Alors, mais enfin, tous les gens.
Et on pourra décider ensemble aussi de ce qu'on fait avec ce fric.
Et voilà, et on va décider juste à ce niveau-là.
C'est un truc de famille, quoi. C'est un truc de. Enfin, il y a un truc
tu peux imaginer que Saluo Productions vienne mettre un petit peu dedans, que Imhotep, avec ses éditions marseillaises, mette dedans. Que
Guiz a mis du fric, là.
Guiz l'a déjà mis. Guizmo a commencé à mettre dans. Tu vois, que chacun amène, on se met autour d'une table. Après, on fait la répartition avec les gens qui sont propriétaires. Et on sait que l'autre partie, bah, c'est génial. On peut être indépendant pour s'autoproduire les prochains numéros ou les prochains films. Toi, ça. Ça renforce en plus, ça renforce ton indépendance.
Là, on a beaucoup parlé de live pour Désert Rebelle, mais il a été question d'un album dès le début de l'année d'ailleurs, qui devait sortir au printemps, qui a été repoussé. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'histoire, le cheminement de cet enregistrement qui est déjà d'ailleurs en boîte,
qui est à l'usine depuis vendredi et qui sera dans les bacs à la rentrée.
Et alors, sous quel éditeur?
Alors, chez le distributeur, c'est chez l'Aube Distribution. À ce sujet, je fais une petite parenthèse. Donc, au début de Désert Rebelle, avant que les gens partent au Niger, nous allons voir avec Bergeron, naturellement, un distributeur pour lui proposer de distribuer ce projet, donner une avance afin qu'on puisse financer. Donc, après le succès qu'ont eu les Berruriers Noirs avec le DVD qui a été produit par Bergeron et les Berru, on s'est dit, on va aller chez le distributeur Wagram, comme ça je le cite, des Berruriers Noirs. Donc, nous sommes allés rencontrer les patrons de Wagram avec ce projet. Un des patrons qui s'occupait à l'époque des labels de distribution, qui ont dit putain, bon esprit. Donc, ils savaient qu'il y avait du sérieux parce qu'on embarquait quand même des musiciens sérieux et que l'histoire était belle. L'histoire d'Abdallah, tu restes pas indifférent à une histoire avec un mec qui a une calache à un moment donné de sa vie, une calache à la main gauche et une guitare à droite et qui pose la calache aujourd'hui, naturellement. Et donc, ce distributeur dit putain, c'est top. Nous, par naïveté, on se dit bon, on va pas aller voir d'autres distributeurs indépendants. Donc, dès le départ, on s'était dit, on ne va pas aller voir Universal, on ne va pas aller voir Sony ou EMI, on va aller voir un indépendant. Trois jours avant le départ, j'appelle le gars, je lui dis, écoute, on va partir, il n'y a pas moyen de faire une petite avance, j'ai 18 billets d'avion payés, j'ai un petit peu de fret pour le studio, toi, j'ai une agence sur place qui a géré le tourisme, qui fait du tourisme solidaire, il faut les payer, enfin, on a des frais, hein, quelques milliers d'euros. Ah bon, je crois qu'on ne va pas pouvoir le faire, ce projet. Ah, merci. Bon, plan B, le soir, on se voit avec Bergeron, qui se dit, bon, écoute, qu'ils aillent se faire enculer, pardon pour le truc.
Qu'ils aillent se faire fourrer.
Il en a parlé hier, Bergeron, de son histoire, on pourrait faire un raccord. Je viens de gagner un procès contre Universal qui m'a dépouillé mes droits, ça va rendre romanesque cette histoire, les droits que Universal, les droits d'auteur de réalisateur m'a dépouillé sur différents projets. On va prendre cette thune, je vais pas m'acheter un 4x4 ou un loft boboisé à Paris, je finance l'opération. Voilà l'histoire de l'opération, comment il y a de l'argent qui circule quand même pour payer des billets, du studio et faire des choses.
Alors aujourd'hui,
à noter qu'un label comme Wagram.
Et on est chez l'Aube Distribution aujourd'hui.
N'est pas une majeure, mais est concurrent, totalement concurrent des autres majeures compagnies. Et ce qui est dommage, c'est de voir qu'une compagnie indépendante adopte le même genre de comportement et le même raisonnement en part de marché. C'est bien dommage pour moi, enfin, sans mettre de claque mais c'est j'envoie un encouragement à Wagram à essayer de développer cette différence mais peut-être c'est trop tard, j'en sais rien.
Après, on est allé voir d'autres distributeurs et finalement, on a fait le choix, sous les conseils d'un gars qui s'appelle Luc Nathalie à Paris, qui nous conseille là-dessus juridiquement et tout. On a fait le choix de bosser avec l'Aube Distribution, qui est un label qui est basé à Tours, qui nous a semblé le label le plus alternatifs, distributeurs et bon esprit et équitable et transparent, pour la simple raison qu'on s'est rencontrés un quart d'heure après, on s'est vu dans les yeux qu'on parlait de la même chose, après avoir expérimenté des majors et des gros indépendants français, qu'on avait le même discours, le gars avait déjà anticipé, et le contrat qu'on a avec lui, et ça serait intéressant, on va mettre à la rentrée ce contrat de distribution qu'on a en ligne sur le site. J'ai jamais vu un contrat de distributeur comme ça, il fait 2 pages et demie, tu comprends tout ce qui est raconté. Ils nous payent tous les mois. Ils nous payent tous les mois. Il faut savoir que les gros indépendants, etc., ils payent les artistes 6 mois, 9 mois, 1 an et demi après. Et lui, il a fait un système de compta qui fait que tous les mois, les labels qui sont producteurs chez eux en distribution, ils ont un relevé tous les mois, un relevé mensuel. Donc, tu as un relevé mensuel des ventes et tu as même un relevé mensuel des ventes précises suivant la région et les magasins.
François Mouget qui est avec nous aussi du label Say It Loud qui a produit Drop the Debt, mais alors là il y a une question de droit qui s'annule puisque Drop the Debt était au bénéfice d'associations ainsi que les autres compilations, notamment une pour Survie où il se trouve au trio d'ailleurs dedans. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de créer un album et de le distribuer?
Alors créer un album, ça devient de plus en plus facile parce que les technologies avançant, on arrive à se passer des grands studios et à enregistrer beaucoup de choses chez soi. Après le l'écueil, c'est toute une série de. En commerce équitable, on parle beaucoup de raccourcir la filière. Et là, on a un vrai problème, c'est qu'en disque, on a une filière assez longue, qui fait que une fois qu'on a enregistré son disque, il faut le presser. Donc on passe chez un presseur, une grosse usine qui va presser des galettes de CD par milliers, les mettre en boîte, etc. D'ailleurs, le CD est une chose très peu écologique. Hein, c'est l'une des choses les moins écologiques qui soit. Et ensuite, on va être obligé de passer par un distributeur. Parce que si par exemple on prend le cas français, la France est trop grande pour aller voir nous-mêmes avec une camionnette faire le tour de tous les magasins possibles. Et encore, il y a eu une hécatombe dans les magasins, mais on peut pas être le lundi à la Fnac de Pau, le mardi à la Fnac de Lille. Donc on passe par un distributeur et là, première claque, le distributeur vous signe un contrat. Si vous êtes pas très important pour lui, il va vous prendre 40%. Du prix de gros hors-taxe. C'est déjà une énorme ponction. Et puis, vous arrivez ensuite en magasin, et là, les magasins se font une marge assez conséquente. Ouais. Ils ont une calculatrice assez simple, il y a une seule touche dessus, ils multiplient par 1,65. Pour un magasin qui commence par F et qui finit par C.
La Fnac, on va les citer parce qu'on va y venir.
Donc, ils prennent le prix de gros hors-taxe, donc le prix auquel le produit leur est vendu, ils multiplient par 1,65. Donc, il y a une marge assez conséquente de ce côté-là. Okay. Pour un travail qui n'est plus fait aujourd'hui, parce qu'on sait bien que si vous allez demander à un vendeur Fnac, le pauvre, vous lui demandez quelque chose, il n'en a jamais entendu parler, il n'a probablement jamais écouté, et il aimerait bien. Il aurait aimé, mais il n'a pas le temps. On lui dit de travailler sur autre chose. On lui fait une prime au retour. Le retour, c'est quand vous renvoyez des disques aux fournisseurs. Et donc, le vendeur Fnac, par exemple, n'a pas de prime quand il vend, il a des primes quand il fait des retours.
Incroyable. C'est vrai ce que tu dis.
C'est tout à fait vrai.
C'est
une question de gestion.
Attends, c'est hallucinant ce que tu es en train de dire.
C'est une question de gestion.
Tu peux le répéter pour les gens. Non, attends, là c'est un truc, c'est monstrueux.
Donc il y a un système de primes chez la Fnac qui ne prime pas les ventes,
mais les retours.
Qui prime les retours, c'est-à-dire la gestion de ce qu'ils appellent le mètre carré linéaire. C'est-à-dire qu'on a un magasin, ça fait tant de mètres carrés, il faut que chaque mètre carré produise son million d'euros, ou enfin je ne sais pas combien de milliers d'euros par mois. Et pour aboutir à ça, il faut que les disques tournent très vite. Donc vous avez en magasin une durée de vie pour un disque qui est de 3 mois. Vous avez une nouveauté. Si au bout de 3 mois, la vente ne s'est pas faite, et un disque, ça prend plus de temps que ça, parce que vous avez une tournée, et il faut que le bouche-à-oreille marche, et au bout de... Il y a des disques qui décollent au bout de 12 mois, mais qui décollent de façon vertigineuse, mais ça a pris 12 mois pour démarrer. Non, la Fnac actuellement, et tous les autres magasins nous disent, au bout de 3 mois, désolé monsieur, mais ça s'est pas vendu, merci de récupérer vos disques. Et c'est même pas en fait merci, hein, de toute façon, vous avez vos disques qui reviennent chez le distributeur. Donc il y a toute cette filière compliquée, et là il y a un énorme travail à faire et une vraie urgence à en inventer une autre.
Alors pour citer concrètement, le label Say It Loud est distribué en tout cas pour Drop the Debt et les deux suivants par Harmonia Mundi. D'abord pourquoi Harmonia Mundi? Ça te semblait le plus proche au niveau des distributeurs, de la philosophie du label?
Après c'est aussi des questions de... on est très humain, c'est des questions de rencontres. De vibrations. Hein. Je connaissais les gens d'Harmonia Mundi. J'ai contacté Vagram, notamment, pour Drop the Debt. Le gars est très sympathique. Et je pense que Vagram, c'est une coopérative, en fait. Ou plus ou moins. En tout cas, ils ont coulé.
Je vais pas donner de faux chiffres. une grosse partie qui appartient à 5 gars de la boîte,
oui.
Et puis le reste qui est chez les salariés.
Voilà, c'est un indépendant, mais qui reste dans une logique de major, effectivement. Donc, Wagram ayant refusé, j'étais moi aussi un peu pressé pour trouver une sortie, parce que... Et donc, on est parti chez Harmonia Mundi. Ensuite, la négociation, c'est simple, hein, avec les magasins, c'est leur intérêt. S'ils voient qu'ils ont un intérêt à mettre ton disque en façade parce qu'ils sentent qu'ils vont en vendre, et ben ils le font. Et là, il y avait Cesaria Evora, il y avait Tiken Jaffa Coli, donc bon... produits intéressants, ils le font.
Puis tu leur ramènes comme nous, tu leur ramènes une image aussi.
On amène de l'image, il y a des conditions, c'est-à-dire que...
Le leader du bien culturel, qui fait de la culture aussi.
Ils sont comme toutes comme tous les supermarchés, ils font des marges arrière, c'est-à-dire que vous avez un point écoute, bah, ils vous demandent 2% de réduction, enfin vous avez différentes petites choses comme ça. La FNAC est quand même un peu piégée par son image, hein, elle était agitateur culturel, elle ne l'est plus. Parce qu'elle n'utilise plus le terme, mais elle essaye de faire passer une image autre que celle d'un simple supermarché, gros bazar de la culture. Donc, elle fait pas, c'est pas la pire. Je veux dire, il y a des magasins en Italie de disques qui vendent le mètre carré, qui louent le mètre carré. C'est-à-dire que vous voulez vos disques dans les magasins, bah vous louez votre mètre carré.
Aïe, aïe, aïe,
voilà, bon. On est là-dessus. En FNAC en France, on n'est pas encore là-dessus. Ils vous font payer le catalogue de Noël, ils vous font payer des tas de choses, mais ils vous font pas encore payer le mètre carré ni le point écoute.
Tu disais que c'était urgent tout à l'heure de changer peut-être ce circuit de distribution, de trouver des choses. Il y a des pistes qui existent pour changer ça, ou c'est pour l'instant quelque chose de complètement illusoire et utopique de le changer?
Alors, illusoire, non. Non, parce que la musique va survivre. De toute façon, le concert existe toujours et il y aura toujours une envie d'écouter de la musique. Ça, illusoire, non. Utopique, je pense pas non plus, mais c'est vrai qu'il y a un énorme travail de réflexion à faire, de mettre à plat les choses, dire, bon ben voilà, la vie d'un disque ou la vie d'un concert, c'est ça, ça part d'un musicien, ça arrive à un spectateur ou un auditeur par tel ou tel intermédiaire. Quel intermédiaire touche quoi? Quel intermédiaire est nécessaire? Lequel ne l'est pas? Quels sont en quelque sorte les chartes qu'on pourrait définir pour aboutir, ce qui serait bien, et ça c'est pas utopique, c'est aboutir à un vrai label. C'est-à-dire qu'on puisse un jour dire, bon ben voilà, là j'ai un produit, je sais, c'est marqué, il y a le label équitable, je peux acheter en confiance, je sais qu'il y a une partie importante qui reviendra à l'artiste, et puis là j'ai pas le label équitable. Eh ben je sais que l'artiste va toucher quelques copines.
Ça serait bien qu'elle soit montée cette charte, vraiment qu'elle aille plus vite, quoi. Ça serait génial.
Mais c'est quand même un travail de.
Ça demande beaucoup de bonne volonté.
De réflexion.
Nous, on pensait que
ça fait bander, quoi, franchement, cette histoire. Ça fait grave bander.
Ça va prendre des mois. Nous, au début, autour, on a commencé à activer les réseaux des gens pour réunir. On a reçu plein de mails parce que, et Dieu merci, on n'est pas les premiers. Il y a eu plein d'expériences. Il existe toujours plein d'expériences de gens qui font vraiment de l'équitable et de la culture, mais qui n'ont pas forcément la médiatisation que nous, on peut avoir sur des projets avec des artistes, comme tu dis, Tiken, Cesaria, vous ou d'autres. Et moi, je me souviens d'un mail qu'on avait reçu. C'était des mecs de l'île de Gorée, toi, qui est face à... En face de Dakar, on a fait pas mal de voyages il y a une dizaine d'années là-bas.
C'est quoi, Dundia Heroes?
Dundia Heroes, puis il y avait le collectif au Castel là-haut qui s'appelle les Africa Djembe, voilà. Et à un moment donné, tu avais des touristes japonais qui passaient par là, et dans ces touristes japonais, tu avais un gros producteur de musique japonaise, toi, et qui est retourné au Japon avec des sons. D'où une partie des musiciens de cette truc de percus jouent actuellement dans les studios au Japon, toi. Les mecs sont arrivés, ils ont fait toi de la musique avec les sons qu'ils ont pris. Le gars sur place, il n'a rien reçu. Et on a reçu un mail comme quoi le gars, il dormait dans une cabine téléphonique. Donc, c'est-à-dire que, voilà. Et des expériences comme ça, on a tout on a eu des exemples. C'est ça, en fin de compte, ça a été aussi une des raisons qui nous a mis meilleur de nous. Mais de toute façon, on le savait, puisqu'on est comme proche des musiciens depuis pas mal d'années. On n'a pas fait de business en plus avec les musiciens. Nous, on a notre rapport. On n'est pas des managers, producteurs. On vient de l'image, on vient du film. Donc, et lorsque tu te mets à en parler, tu te rends compte que tu as plein d'expériences qui existent déjà. Il y en a plein. Qui font des petits trucs au Burkina, en Vietnam. Là, il y a une équipe de gars qui sont actuellement au Sri Lanka, qui font des trucs. Ben, je portais, c'était au Sri Lanka. Là. Voilà, il fait des petits trucs au Sri Lanka. Plus on va être, et ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Mais ce temps-là, il en vaut la peine. Même si on en a pour un an à partir de la rentrée pour la rédiger, il faut prendre cette année. Parce que je te dis, toi, on a la chance d'avoir comme des gens qui ont un engagement, un état d'esprit, et qui attendent que ça. Mais comme tu as bien fait de préciser, moi volontairement, je voulais pas trop parler parce que c'est un sujet que je maîtrise pas. C'est plus le distributeur qui m'a fait ton explication de la FNAC. Mais c'est ça que le consommateur doit capter. Là. Il faut qu'il comprenne quand il va la
faire. Il faudrait trouver un nom, quelque chose qui soit fédérateur. J'oserais dire le label continue, dans le sens où rien d'interrompu. Il n'y a personne qui taillerait la pousse de cette idée. Le label continue, quelque chose dans cette idée.
François Mauger, dans la démarche de Désert Rebelle, il y a des choses qui peuvent servir justement dans cette réflexion, tu penses ?
Mais je pense que c'est, et ils seront d'accord avec moi, c'est une démarche qui est assez courante. C'est-à-dire que tout le monde est en train de se dire quelque chose est en train de mourir. Il y a un modèle qui est en train de mourir, le modèle du disque, hein, le CD notamment. Et tout le monde est en train de chercher d'autres solutions, notamment les artistes qui, avec les moyens qu'ils ont de s'enregistrer eux-mêmes, commencent à se dire, mais pourquoi je paierais autant un producteur? Pourquoi je paierais autant un distributeur? Voilà, donc il y a une démarche globale, et c'est sûr que c'est un exemple qui peut servir.
Et qui existe, comme tu as bien de préciser, mais c'est, on est dans un courant, de toute façon, on est dans un moment donné où les gens, ils commencent à se poser des questions au niveau de... Et aujourd'hui, sincèrement, moi, je pense que sur des projets comme ça, la participation comme de gros artistes engagés, elle est super importante. Et volontairement, on met le doigt dans l'économie, parce qu'il n'y a pas de honte à faire du business avec des gens du Sud ou des gens entre le Nord et le Nord. Parce que tu vois, c'est ce que disait Bergeron hier. On a donné le mot commerce équitable. Le commerce, à la base, il devrait être équitable. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait du business à quelqu'un d'autre, tout le monde repart content et personne n'est exploité. Tu vois, la base. Et donc, on invente un mot maintenant, entre guillemets, on se retrouve obligé de donner une définition. Ouais, le fond de notre pensée, ça nous gave. Le terme, on a un problème avec ce terme-là. Même si je suis d'accord, parce qu'on est, à la base, on est comme ça. Sinon, on aurait eu peut-être d'autres chemins, toi.
C'est dur de se cacher derrière une étiquette.
Quoi, voilà,
c'est chiant.
Et quand je te dis qu'il faut aujourd'hui, c'est facile d'avoir un discours politique. Et le monde de la culture, c'est le dernier truc, c'est un des derniers remparts qui reste sur la planète pour défendre de l'écologie, pour défendre des guerres civiles, c'est un des derniers remparts. Il y a toujours une place du monde de la culture dans les prises de position politique. Et le plus facile à faire, c'est de prendre position et dire, ouais, les gars, vas-y, la révolution, on fait péter le truc. Et puis derrière, bah, tu repars, tu dépouilles tous les mecs avec qui tu bosses, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et tu parles pas d'économie. C'est pas tabou. Je demande au monde de la musique, au monde de la culture, de parler de thunes. C'est super important.
Alors, quand vous dites que les deux, hein, autant François Mauger que le collectif Désert Rebelle, vous essayez de créer des alternatives, si on comprend bien aussi au schéma existant. Mais en attendant, il y a toujours autant de monde qui va à la FNAC. Et en attendant, vous êtes obligé, je pense, à l'automne, de composer avec la FNAC. Ouais. Et en attendant, la FNAC, il y a à peu près 6 mois, réfléchit sur de la musique équitable, intrinsèquement. Qu'est-ce que vous comptez faire avec ces interlocuteurs qui, malgré vous, résistent, de toute façon, et sont encore en place? Et qu'est-ce que vous pensez de cette approche nouvelle de la FNAC et de son approche vis-à-vis des musiques équitables?
Je vais être le plus transparent et d'être le plus clair possible dans nos rapports entre nous et la FNAC. La FNAC nous connaissent, de toute façon, parce qu'ils voient les groupes. On a eu un gars qui avait été nommé à la FNAC il y a quelques mois, qui aurait pu être un rebelle au sein de la FNAC, et il s'est fait virer au bout de 2 mois et demi.
Oui, pour ne pas le citer. Oui,
Manu Baron, qui nous a fait un pur coup de main avec la condition publique, et c'est quelqu'un qui nous suit depuis le début. Donc Manu a été nommé, mais Manu nous avait invité à la condition publique à Roubaix avant d'être nommé. Voilà. Donc à la FNAC, il a été nommé, il s'est retrouvé comme un poste super stratégique, mais c'est un poste sans pouvoir, parce que le pouvoir à la FNAC, c'est les commerciaux qui l'ont.
C'était quoi
le... Il était directeur de l'action, ce qu'ils appellent l'action culturelle et l'événementiel. Et en fin de compte, ce service-là, c'est un service qui sert d'amener une certaine reconnaissance, une éthique dans le monde de la culture. Tu vois, c'est des opérations avec la Fédération Droits de l'Homme, Amnesty, enfin, on va dire au sens large, caritative et humanitaire ou d'engager. C'est ce qui amène le sens agitateur d'idées. Donc il a été viré. Ma position était claire vis-à-vis de la FNAC, c'était de dire que de toute façon, nous, on va... Joue la transparence, au moins, comme je te dis, sur Internet et au moins sur les CD. Et la FNAC, de toute façon, elle ne peut pas. Nous, on rêverait qu'elle le fasse. Mais à ce jour, j'en sais rien. Le CD sort dans 1 mois et demi dans les bacs. Hein. Donc, la FNAC va devoir se positionner. Je ne suis pas journaliste, donc ce n'est pas moi qui irai voir Dolly Olivet, ce PDG de la FNAC, pour lui dire quelle est votre équitabilité dans ce projet-là. Ce sera lui de répondre aux questions des gens. Je ne me concentre pas sur la FNAC pour 2 raisons. Ils sont en train de se casser la gueule et actuellement, tu as une autre grande distribution qui arrive en force, qui sont toutes les boutiques Auchan Culture, Leclerc Culture, et qui se développent 4 fois plus vite que la FNAC et en province, parce que la FNAC, c'est un gros public parisien. Donc ouais. La FNAC, ils sont pas... Mais si tu remets la FNAC dans son ensemble de la grande distribution, pour nous, c'est un bloc. On va faire avec. Nous, on va jouer à la transparence du truc. On va imposer un prix. Par contre, où on veut vraiment développer le truc, c'est...
en vente. C'est-à-dire quand tu dis tu vas imposer un prix à la FNAC.
Ah bah ouais.
Donc c'est comment tu procèdes pour
bah ça, c'est imposer un ça, prix. Je vais pas te raconter.
C'est toi qui gagne au moins dans l'histoire.
La première façon, c'est de vendre son disque le moins cher possible.
Ouais. Voilà. Donc nous, vu le disque qu'on va faire, etc. De toute façon, nous, on veut pas qu'il coûte plus cher que 18-19 euros. Toi.
Mais la marge de la FNAC, tu l'as pas négociée.
Non, la marge de la FNAC, j'ai pas négociée. Et c'est ça qui est honteux.
Donc tu gagnes moins dans le CD.
Non, c'est ce qui est plus honteux par rapport à une info complémentaire à ton explication de la FNAC. C'est que la FNAC fait des baisses de réduction au gros, finalement. À Universal, au big. C'est normal parce qu'ils ont une plus grosse masse. Par contre, plus t'es petit, plus t'es un petit distributeur, et moins on est gentil avec toi dans le renvoi. Donc nous, moi je voulais que le distributeur soit de notre côté dans ce combat-là. Je pense que le distributeur qu'on a, il est vraiment plus qu'indépendant, mais je pense que dans les premiers mois où ça va sortir, on peut pas l'embarquer dans une histoire comme ça. C'est le mettre en danger, le gars. Tu vois, donc la seule alternative qu'on a trouvée, c'est de passer un accord à Cartisan du Monde en ce moment, et puis peut-être d'autres boutiques, et puis tout ça, on a un réseau des gens dans l'alternative qui, eux, vont essayer de le vendre en direct. Voilà, donc tu le vends 20 euros Artisan du Monde, tu as 10 euros qui repartent dans la production, 5 euros qui partent à la boutique où tu as des bénévoles qui bossent pour la boutique, et 5 euros qui repartent à la fédération qui, elle, communique et sensibilise le grand public.
François Mauger, oui, Laurent,
oui. Moi, je voulais parler du commerce équitable en général. C'est vrai que le commerce équitable a eu des grands débats toujours de savoir s'ils allaient s'incorporer ou pas dans les grands réseaux de distribution, travailler avec Carrefour, travailler chez McDonald's, etc. Il y en a qui l'ont fait. Il y a toujours un débat actuellement, des gens qui préfèrent faire un peu moins de quantitatif, aller peut-être à des petites boutiques, à des petits réseaux comme Artisan du Monde, mais maîtriser vraiment du début jusqu'à la fin. Ouais. Parce que dès qu'on met le doigt dans un engrenage comme la FNAC ou comme Auchan ou Leclerc, à un moment donné, ça dévertue un petit peu le système.
Ça dépend vraiment l'ambition du projet aussi. Ouais. Là, par exemple, il s'agit d'un projet social et d'être acteur au niveau de la société même, de sa mentalité, sans avoir la prétention de l'influencer, mais en tout cas au moins de mettre en lumière un état d'esprit. Et quand tu as envie de toucher et que ça soit efficace, tu as envie que ça soit relayé quand même par le plus grand nombre. Voilà, il y a quand même quelque chose de. Il y a une vraie ambition dans ce projet, donc à mon avis, tu peux pas prendre le truc par le bas, en tout cas. Enfin, c'est pas possible.
Mais c'est compliqué de se marier avec des gens comme McDo ou Carrefour pour leur donner bonne conscience. C'est comme le café qui t'appelle. Il y a un grand débat en tout cas qui existait. Il y a les deux. Il y a les gens qui ont fait le pas, c'est-à-dire qui ont distribué dans les supermarchés et qui, entre guillemets, la politique du supermarché ou de l'hypermarché, les salaires des caissières, la politique générale leur est égale du moment que le produit est connu et que peu à peu il rentre dans les mœurs. Et il y en a d'autres qui continuent dans le réseau complètement alternatif et disent non, moi je veux pas toucher, je préfère faire à petite échelle, mais faire pure, entre guillemets.
C'est ce que l'autre distribution, la FNAC représente 28% de son marché. Il a 72%, on a appris qu'il y avait des bouchers qui allaient vendre notre album.
Donc il y a 72%, c'est que des disquaires indépendants, des libraires. C'est aussi un des choix qui nous a motivés dans son explication. C'est quand il nous a dit, pour moi, la FNAC représente 28% de mes ventes. Donc, quel que soit le rapport que vous allez avoir avec eux, on fera avec toi.
Et puis ça va durer 3 mois, comme on disait tout à l'heure, et après
ils vont plus. Et par contre, ce qui nous intéresse, nous, c'est le petit libraire à Bourges, le boucher de Clermont-Ferrand qui vend des albums et tout la bande.
François Mauger, parce qu'il n'a pas répondu.
Le mot de la fin, parce qu'on va être pris par le temps, Julien.
Juste sur l'interlocuteur de la FNAC qui persiste et l'alternative à créer là-dessus.
Alors, juste avant mon mot de la fin.
Je pense que ce qu'on attend Lila Dance dans les studios, on veut pas presser parce qu'elle est chez EMI en plus. Donc. Mais donc, jusqu'à que Lila Dance arrive, on peut continuer. Mais
elle est chez Narada et EMI. Le problème, c'est que c'est souvent un peu compliqué.
Voilà, c'est le
distributeur. Donc on a une petite structure qui s'appelle Narada qui est distribuée par EMI. Juste sur la question du prix, pour expliquer ça aux auditeurs aussi, il y a eu une bataille sur le prix du livre. Quand vous achetez un livre, vous le retournez, en tout cas en France, je ne sais pas comment ça fonctionne ici, vous avez un prix indiqué et vous payez ce prix-là. Voilà, c'est une bataille qui date du début des années 80. Au moment où ils ont décidé ce qu'on appelle ce prix unique du livre, ils sont interrogés sur le prix unique du disque. Et les majeures compagnies ont dit « pas question ». Pour différentes raisons, c'est qu'elles veulent faire varier leur prix comme elles le souhaitent, qu'elles fabriquent pour l'Europe entière, donc ça les dérangeait qu'il y ait un prix en francs, etc. Donc voilà, on n'a pas de prix unique du disque, ce qui fait que ce qui
complique. Une TVA différente, parce que le livre il a 5,5, c'est ça, et le disque il a 19,6.
Tout à fait. Ce qui complique beaucoup, par exemple, le travail de Désert Rebelle, s'ils veulent faire un calendrier, enfin pas un camembert pour dire il y a telle part qui va au distributeur, parce qu'il y aura des prix différents. Il y aura, par exemple, les supermarchés cassent les prix sur le disque parce que c'est pas ce qui les intéresse de vendre, mais c'est un produit d'appel. Pour eux, ils veulent vendre de la lessive, ils vendent des disques pas chers, ça attire les jeunes, et ils arrivent à leur refourguer de la lessive. Donc le disque de des Airs Rebelles, s'ils ont un prix de gros de 10, c'est-à-dire le prix qui est vendu, le prix qui est proposé au magasin, de 10 euros hors taxe, les supermarchés vont peut-être le mettre à 12,50 quand la Fnac va le mettre à 16. Résultat, le camembert, le camembert de Désert Rebelle va être très compliqué parce que
il y aura. Alors comment vous faites la farine pour plusieurs camemberts?
Ce que tu dis, François, c'est ce que le distributeur m'a dit lorsque j'ai eu au téléphone. Je dis non, je m'en fous, il faut le mettre. Il y en a, même moi avec l'intention, je peux pas parce que ça va dépendre des magasins. T'as des magasins qui vont comme tu dis, certains supermarchés qui vont le faire à 12, d'autres qui vont le faire à 16.
Est-ce que tu peux pas faire l'envers et dire voilà mon prix à moi?
Non,
voilà.
Ce serait probablement la solution.
Voilà ce que ça me coûte. Et la différence, tu calcules ce que gagne le magasin et tu vois si c'est juste
de faire le camembert que sur ton prix de vente
ou le prix conseillé. Enfin.
C'est-à-dire que tu prends note. C'est-à-dire que simplement tu as un prix de gros et tu peux le signaler à l'acheteur.
D'accord. Donc sur mon album, je peux marquer plus de gros taxes.
Tu le mets sur le livret.
D'accord.
Tu dis j'ai vendu au magasin à tel prix. Après vous voyez à quel prix vous l'avez acheté. Moi c'est à ce prix-là que je l'ai vendu.
Je crois Julien qu'on va filmer.
Et ça c'est légal ça.
Enfin, si c'est dans le livret,
faut pas que ce soit sur la pochette, c'est tout.
Faut pas que ce soit sur la pochette.
Je crois qu'on va finir, Julien, sur une collaboration entre François Moget et Farid Merabek pour définir ce.
On signe le contrat avec.
J'ai écouté ce que tu dis avec grand intérêt. C'est.
La discussion va continuer en studio. Il y aura peut-être des choses qui vont naître justement de ce petit débat ici dans les studios de Radio Esperanza.
Un dernier mot.
Oui, mais je vous propose de continuer un peu parce que Lila Dance est en retard et que voilà.
Un dernier mot.
On peut continuer. On déborde un peu.
Attention sur ceux qui ont commencé ce travail. De réflexion. Alors moi, je l'ai commencé à mon modeste niveau en allant consulter pas mal de monde et en commençant à réfléchir avec l'idée de préparer un livre sur la question. L'idée, ça serait d'expliquer au grand public à quoi a servi tout l'argent qu'il a utilisé pour acheter des disques.
D'accord.
Bon, donc ça, c'est mon petit cas, mais il y a un site web qui s'appelle musiqueéquitable.org. Ça, je trouve ça très gênant parce que eux se contentent, me semble-t-il, de dire que c'est le MP3 qui va sauver l'industrie du disque, qui va sauver le monde du disque. Ça me semble très gênant d'utiliser déjà le mot équitable. Il y a par contre une association qui s'appelle Fair Playlist et je connais pas leur site web par cœur.
C'est donc avec eux qu'on est en connexion pour rédiger la charte.
Voilà, qui sont très intéressants, qui eux réfléchissent depuis 2 ans.
Voilà.
Depuis 2 ans, ils sont en train de réfléchir sur cette question de musique équitable.
Et téléchargement, et carrément, ils pensent à ce moment à des distributeurs de musique, les gars. Ils sont, parce qu'on les a rencontrés, on est tombé face à des gens qui étaient super pointus sur le plan technique, informatique, qui avaient en plus l'intention d'aller au bout du terme équitable. Et dernièrement, les news, c'était qu'ils sont en train de voir pour faire une espèce de téléchargement, genre un jukebox, où tu payes directement à l'artiste le morceau.
Donc voilà, mon mot de la fin, c'est ne nous précipitons pas, prenons le temps de réfléchir pour aboutir à un vrai label qui pourrait faire la différence entre un disque qui est inéquitable, parce que actuellement, là, 99,9% des disques que vous achetez sont inéquitables, et puis les disques équitables.
Non, pas plus vite que la raison, je suis d'accord avec toi.
Un petit mot à Laurent qui vient de Barcelone, qui justement a aussi tenté de monter des projets de disques sur Barcelone. Les problématiques sont les mêmes en Espagne, là-bas?
Oui, les problématiques sont les mêmes, et en plus, pour nous, la solution, ça a vraiment été de dire on part sur de l'alternatif et des petites quantités. C'est vraiment du. Essayer le plus possible de rendre le disque un instrument convivial qui va être donné de la main à la main. Hier, on a parlé un peu de la Colifata, c'était vraiment ça. C'était un disque qui se vendait uniquement par les musiciens de la rue. Donc c'est vrai qu'il y avait une ampleur, puisqu'il y avait une vingtaine d'artistes qui pouvaient vendre en même temps. Donc c'est un modèle qui a été suivi en Galice, puisqu'aujourd'hui, il y a une compile qui est sortie qui s'appelle La Perloca, sur le même modèle.
Très bonne compile, beaucoup de choses dedans.
Et sur Radio Tchango, nous, on a essayé de faire le plus qu'on pouvait de la vente en direct. Mais là, je répète, c'est vrai qu'on est allé un peu avant. Le modèle n'était pas encore totalement... rationnel, puisqu'en fait sur 10 euros ou 8 ou 9 euros, je me souviens plus de prix de vente du CD, il y avait 2,30 € qui allaient à l'intermédiaire financier, et puis je sais pas, peut-être 80 centimes de frais d'envoi, et à l'artiste effectivement la part proportionnelle qui lui revenait était bien inférieure par rapport au service ou à vraiment la valeur ajoutée qu'il apportait à l'outil. Donc on a exactement le même problème, et nous on est parti sur une problématique un peu
un peu moins ambitieuse en disant on va essayer de petit à petit de faire un peu de faire un produit artisanal du disque.
C'était un choix aussi parce que vous auriez pu par exemple sortir la Colifata à une échelle beaucoup plus grande, ça aurait pu fonctionner.
La Colifata c'était un choix plus on va dire politique de dire on refuse de le vendre à la Fnac et c'est demander le soir c'est demander à votre musicien favori, on va dire demander à votre disquaire favori. Et par rapport à Radio Tchango, non, nous on avait vraiment eu une idée de justement de se faire connaître. C'était un disque avant tout des artistes pour nous appuyer, pour nous aider à nous faire connaître. Donc nous on aurait aimé, on a discuté avec Pierre, on aurait aimé aller un peu plus loin. On regrette pas finalement. Les gens qui ont eu le CD entre leurs mains et qui continuent à pouvoir l'acheter à travers la page sont contents. Ça voyage pas mal. Et finalement l'expérience qu'on a eue à la FNAC, parce qu'on a aussi fait des présentations avec des artistes, c'était assez... Le traitement n'était pas très convivial, la vente du disque dans les magasins ne se faisait pas, il n'y avait pas de pédagogie, il n'y avait pas d'explication. Donc vraiment, je pense que la possibilité pour nous, en tout cas par rapport à une page web, on a quand même 500 000 visites à peu près par mois. Je pense qu'on a un canal de distribution, des gens qui sont sensibles à un même genre de musique. On a la possibilité, on a là un canal qui nous est suffisant pour nous. On ne prétend pas aller vraiment au-delà et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas non plus les moyens par internet, en tout cas, pour télécharger des MP3, pour faire quelque chose de.
Mais tu sais, Laurent, c'est plus honnête. Moi, je trouve que c'est génial ce genre de festival. Toi, déjà, ça permet qu'on se rencontre. Toi, qu'on se voit de visu avec pas mal de gens. Donc, toi, ça nous a permis ça. Et là, le truc d'internet, là, pour rejoindre ce que tu dis, que ce soit les mecs de faire playlist ou tous les gens qu'on commence à rencontrer, ils sont tous dans. Toi, c'est le moment. Moi, je dis, c'est le moment. C'est vraiment le moment de monter un modèle économiquement viable sur internet sans tomber, enfin moi c'est ma position, je tomberai pas dans le piège du ouais tout est gratos et dans le truc protégez-nous, parce que souvenez-vous de la campagne de pub immonde qu'il y a eu dans le métro parisien où t'avais les plus gros mecs qui prenaient de la thune, t'avais Obispo, je sais plus qui, Jean-Louis Aubert et tout, qui pleuraient
contre piratage,
ne nous volez pas, ouais, ouais. Putain, attends, c'est une insulte, cette affiche c'est une insulte vis-à-vis du public, des gens. Toi, c'est à la limite le mec qui en gagne 20 dollars ou 15 euros par jour, qui fait ça gratte, qui lui à la limite il peut se dire s'il te plaît ne pirate pas, s'il y a moyen lâche-moi un petit 50 centimes d'euros, 1 euro, mais que le mec qui palpe et que aujourd'hui si on réussit à se connecter, toi, à mettre en place ce côté internet, moi c'est là que je vois le truc, c'est vraiment sur internet. Peut-être que j'ai une focalisation, mais je sais qu'il y a des modèles, on a rencontré des gars à Québec l'année dernière, à leur niveau, ils font leur truc, toi ils vendent 3000 4000 vinyles, ce qui est énorme,
ouais,
par an. Donc ça permet à ce que la structure toi vive, etc. Et ils ont fait le choix depuis le début sur internet. Moi je te dis, c'est du moment où on peut mettre en relation directe l'artiste et le public, ce qui ne veut pas dire que c'est toi 50-50 entre l'artiste et le public. Non, t'as comme des gens qui bossent entre temps, t'as le mec qui gère le site,
Oui, il faut arriver à être connu, il faut la communication quoi, pour arriver effectivement au public.
Quoi. Et qu'aujourd'hui, je sais pas, je pense à Mousse Hakim en ce moment ou à Imhotep, toi, sur le projet des Rebelles, les deux qui nous ont poussé sur cette coopérative, c'est Imhotep et Gizmo. Ça va, c'est comme ceux aussi qui cotisent ou qui prennent pas mal au niveau de la. Toi, moi ça m'a fait super plaisir de voir que ce soit les deux qui avait la masse plus importante à la SACEM, qui venait proposer cette idée de coopérative. Et tout en sachant que c'était pas un coup de pub qui se faisait, puisque de toute façon, ils voulaient même pas qu'on en parle. Ils n'ont rien à foutre.
S'il y a bien les mecs qui passent à la télé, c'est bien qu'ils aient Imhotep.
Et je vois tous les groupes, parce que je me méfie aussi des mecs qui se disent groupe alternatif, moi aujourd'hui, mais je vois tous les gars qu'on rencontre sur les concerts ou qui nous contactent, ils sont en attente de ça. Au-delà de nos histoires de Fnac, de distributeurs.
Je pense c'est vrai qu'on est, un peu au creux d'une vague, donc il y a moyen de faire plein de choses différentes.
Radio Esperanza.
La SACEM aussi, je pense qu'il y a un rôle à jouer là-dedans. Parce que c'est vrai que la SACEM ponctionne sur un disque. Ouais. En Espagne, en tout cas, c'est 50 centimes par disque pressé. 50 centimes qu'on verse à la SACEM. Donc.
Enfin, bon, c'est pas les mêmes.
Qu'on avance à la SACEM. Donc pour un petit groupe qui va faire 1000 disques, c'est quand même beaucoup d'argent qu'il doit mettre sur la table, donc c'est qui va pas forcément retrouver très vite. Pourquoi donc eux aussi, ils ont un rôle à jouer. En Espagne, il y a la plateforme d'auto-édition qui a été créée, qui rejoint pas mal de groupes, dont Rose de Brujo, des groupes un peu connus, qui a décidé de mettre tout cet argent-là, ces 50 centimes, dans une bourse, en fait, pour le cas où il y a un procès, qui a essayé de pas payer la SGAE. La SACEM, l'équivalent de la SACEM en Espagne, et qui attend un procès, considérant qu'ils n'ont pas ponctionné cet argent-là tant qu'ils ne l'ont pas, eux, vendu. Et c'est vrai qu'autour de cette table-là, je pense que la SACEM aussi devrait avoir un rôle à jouer et devrait avoir un rôle de promotion.
Mais je pense que stratégiquement, de toute façon, il faut aller voir, parce que de toute façon, la SACEM, c'est aussi le pognon des artistes. Mais moi, je dis, quand tous les collectifs d'artistes, en ce moment, lorsqu'ils vont se réunir dans les semaines à venir, et que ça va commencer à se connecter, je pense que quand tous les artistes sont au clair, et puis vraiment qu'autour de la table, tout le monde va jouer le jeu, et non pas t'en as un.
t'as pas un petit mec qui va débouler pour l'image et les médias qui vont retirer et voilà, on confirme que je suis un mec alternatif. Quand tu auras ce noyau dur, moi je pense que moi personnellement, stratégiquement, c'est à ce moment-là que je vais aller voir les institutionnels. Volontairement, je suis pas allé voir le ministère de la Culture, je suis allé voir aucun institutionnel, j'ai zéro balle d'eux, mais le moment viendra à ce qu'on aille les voir. Il vaut mieux arriver en force, quoi.
Un mot de la fin pour François, peut-être, avant qu'on lâche l'antenne de ce débat.
Moi, il y a un truc que j'ai envie de dire, c'est que je doute de beaucoup de choses dans ce système, dans cette société capitaliste. Mais s'il y a un truc dont je suis sûr et qui me fait envie, qui me donne envie d'y croire à ce genre de projet, c'est que je pense réellement qu'on peut gagner sa vie honnêtement, bien même, sans prendre les gens pour des cons, en se respectant, en respectant les gens avec qui on fait les choses. J'y crois, et j'y crois vraiment.